énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental pour vous divertir, mais surtout, nous l'espérons, vous informer. En première heure, une revue de l'actualité où on vous parle, entre autres, d'énergie éolienne, du projet de loi 44, d'espèces menacées et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Le dossier de la semaine, cette semaine, c'est un rapport de l'OCDE qui blâme le Canada parce que, entre ses belles paroles sur le développement durable et ses actions, il y a un monde. Ensuite, on a le plaisir de recevoir M. Michel Gauthier, président de la Fondation Rivière, qui vient nous parler des enjeux qui lui tiennent à cœur. Et finalement, on termine par nos classiques. Coup de cœur, coup de masse et au calendrier, 7 semaines. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout, je l'espère, vous informer en compagnie de l'équipe magique de Delirium Environnemental, sans quoi tout ça, ça serait tout simplement impossible. D'abord, celui qu'on n'entend jamais, mais que vous voyez si vous allez sur notre site internet au www.radiodelirium.net, qui s'occupe de la technique et de la mise en onde, Étienne Côté-Paluc. Bonjour et merci. En studio avec moi cette semaine, Patrick Bonnet, Nicolas Milo et Nicolas Mainville qui vont vous parler de plein de nouvelles passionnantes. Vraiment une grosse revue de l'actualité cette semaine, messieurs. Et sans plus tarder, Nicolas Mainville, il paraît que ça remue dans la cafetière, dans la boîte à pain avec le protocole de Kyoto.
Oui, ça roule cette semaine. On se fait un petit bloc bonne nouvelle pour commencer.
Ouais,
avec
ça se peut.
La Russie qui a déclaré que, Monsieur Poutine directement qui a déclaré qu'il mettait en branle tous les processus pour la ratification du protocole de Kyoto. Vous savez que la Russie était, je dirais, le dernier élément clé à la mise en application de ce protocole-là, qui a été lancé en 1997 par les Nations Unies. Et puis, la Russie, qui représente 17 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète, avait évidemment un rôle clé à jouer pour la mise en application de ce protocole-là, parce que il y a 55 % des émissions planétaires qui doivent être incluses dans ce protocole-là pour être en application. Donc, 55 % des émissions qui doivent, en fait, je recommence, 55 % des pays qui doivent représenter 55 % des émissions.
Ça fait bien des chiffres, ça.
Vous me suivez? C'est pas si clair que ça, hein?
Mais c'est 55 pays, et non 55 % des pays.
Moi, j'ai 55 % ici.
Ça, ce n'est pas.
Peut-être simplement rappeler que pour ce qui est du Canada, nous devions donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 6 % en dessous des niveaux de 1990. Est-ce que le fait que la Russie ratifie, donc, ça va nous permettre de vraiment mettre en œuvre Kyoto? Mais est-ce qu'on a quand même espoir du côté scientifique que ces gestes-là seront suffisants pour faire changer un peu les bouleversements qui sont en cours?
Mais évidemment, pour l'instant, c'est une question politique. Le fait que la Russie en branle pas, ça met beaucoup de pression au Canada parce qu'on a ratifié le protocole de Kyoto, comme tu l'as bien dit. Mais c'est surtout que on n'a pas de plan à Kyoto encore au Canada. Donc, ça met de la pression pour qu'on commence à accélérer le pas un petit peu. Ça met surtout de la pression sur les États-Unis et l'Australie. Vous savez, deux pays qui sont très réticents au protocole de Kyoto. Notamment ces deux pays qui sont en campagne électorale en ce moment. Donc évidemment, la synchronisation de la décision de Poutine pour la ratification de Kyoto dans cette campagne électorale australienne et états-unienne a beaucoup de pression, d'autant plus que les deux candidats à l'opposition, c'est des gens qui font la promotion de Kyoto. Donc extrêmement intéressant à considérer.
Juste rappeler que, en fait, tu mentionnais que le Canada n'avait pas de plan. En fait, ils ont un plan, mais qui n'est tout simplement pas appliqué. C'est tout comme s'il n'y en avait pas, tu l'as très bien dit, en effet.
Bon, reviendront parce que justement ils se sont fait blâmer le Canada par le CDE, mais nous en reviendrons plus amplement. On a fait le tour pour Kyoto.
Ouais, je voulais juste rajouter que, vous savez, les proportions d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont en constante augmentation. Si nous, au Canada, faut réduire de 6 % des niveaux de 90, bien, on a quand même augmenté de 20 % depuis 1990. Donc, il va falloir réduire de 26 %. Donc, c'est tout un processus qui est extrêmement long à enclencher. Mais évidemment, cette première étape par la Russie représente une bonne nouvelle.
Ben oui, bonne nouvelle. On s'en réjouit. Quelque chose qui m'a impressionné cette fin de semaine, je lisais un article dans l'État de la planète qui parlait de la contribution de l'industrie viandeuse au problème des changements climatiques. Je vous rappelle que les pets de vaches, les flatulences, aux États-Unis seulement produisent 17 % de leurs émissions de méthane. C'est quand même assez impressionnant.
Les États-Unis qui représentent 36 % des émissions totales sur la planète.
Et qu'eux n'ont pas ratifié toujours pas.
Ils s'en sacrent.
Nous, ici, on a eu des bonnes nouvelles. D'ailleurs, ça a fait tout un brassage médiatique ces derniers jours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à gaspiller pour utiliser le vent, cette très belle ressource. Patrick Bonnet, tu t'es informé à ce sujet. Est-ce qu'on doit se réjouir ou quoi?
Ben, on a réalisé qu'on a du vent au Québec, soit une excellente nouvelle en l'an 2004. Il était temps. Je crois qu'on doit se réjouir, en effet, parce que c'est effectivement une bonne nouvelle. On va passer, on va devenir, en fait, les plus grands producteurs d'éolien, d'énergie fabriquée à partir de l'éolien au Canada avec la concrétisation de cet appel-là de 1000 mégawatts, je vous le rappelle. Donc, c'est quand même pas rien. Tout à fait d'accord pour dire qu'on peut faire encore mieux parce que c'est concentré sur la Gaspésie. Ce qui est intéressant de voir dans cet appel-là, c'est Hydro-Québec, en fait, qui avait fait l'appel et le gouvernement Charest a fait l'annonce qu'il y aurait des retombées d'un milliard de dollars pour la Gaspésie. Retombées de près de 2 milliards en tout, quand même, très intéressant. Beaucoup plus de retombées en Gaspésie parce que les éoliennes vont être implantées là, en Gaspésie. On parle de 1200 éoliennes implantées en Gaspésie. Également intéressant parce qu'il y avait une clause dans cet appel d'offre-là qui obligeait les entreprises à avoir 40 à 60 % des composantes qui soient fabriquées en Gaspésie. Donc, on a deux usines, une à Matane ainsi qu'une à Gaspé qui vont être fabriquées.
Pas seulement au Québec, mais en Gaspésie précisément.
En Gaspésie, exactement. C'est pour aider les régions. Donc, 360 emplois reliés à ça directement aux usines, sans compter tous les emplois pour... ça prend des lignes électriques, évidemment, pour amener cette énergie-là. Il y a déjà des lignes qui doivent être améliorées encore. Donc, Hydro-Québec qui investit 430 millions quand même. On parle de beaucoup d'argent. Ce qui est très intéressant à voir là-dedans, c'est que M. Sam Hamad, qu'on a fait dans une entrevue la semaine passée avec M. Hamad, il disait qu'Hydro-Québec, il n'était pas question qu'Hydro-Québec s'en aille dans l'éolien.
Dans
la production d'éolien, exactement. Hydro-Québec n'est qu'un acheteur d'éolien. Il achète d'autres entreprises qui fabriquent l'éolien. Eh bien, dans le devoir de cette semaine, Louis-Gilles Francaire a fait une entrevue avec M. Hamad. Et M. Hamad garde la porte ouverte à ce qu'Hydro-Québec commence à devenir un producteur d'éolien.
Tout à fait, parce que l'une des principales critiques, parce qu'on a de la misère à critiquer ce genre de belles nouvelles-là, dans les critiques qui sont faites, en fait, il n'y en a qu'une, moi, que j'entends régulièrement, c'est à quand la nationalisation de l'éolien comme source d'énergie. Donc, Hydro-Québec, nous, Québécoises, soyons les producteurs réels de cette belle richesse.
Donc, ça se pourrait que ça arrive. Ça se pourrait également, M. Hamad ne ferme pas la porte à l'idée que le Québec aide, donne une aide financière pour l'éolien. Donc, comme le fait Ottawa, qui favoriserait justement le développement de ça. En plus de l'expertise qu'on développe sur place de construire tout ça, je veux dire, on devient des experts au Canada, ce qui veut dire on peut en vendre un peu partout. Et également, on peut en exporter un petit peu partout dans le monde. Très intéressant de voir également aussi que on parle de l'éolien, que ça fonctionne pas souvent. On a un facteur d'utilisation de 40%. C'est-à-dire 40% du temps, les éoliennes, ça c'est garanti, les entreprises qui ont signé le contrat, ils garantissent 40% de performance éolienne en temps, on appelle ça un facteur d'utilisation. Également intéressant de voir que le coût au kilowattheure est moins cher que la centrale thermique du Suroît dont on parlait.
Et à 6,5 sous donc du
6,5 sous le kilowattheure.
Plutôt donc, que 7,5 pour le Suroît.
Par contre, petit bémol, peut-être à rajouter que, évidemment, M. Caillé, qui dans leur communiqué Hydro-Québec disait que Hydro-Québec est content de s'afficher encore une fois comme un leader en matière d'achat d'énergie éolienne. Donc, on parle encore d'achat au niveau d'Hydro-Québec, même si M. Hamad lui laisse la porte ouverte. On voit que la tête dirigeante d'Hydro-Québec est fermée à ça. Et on veut savoir ce qui se passe avec le discours du trône également au niveau fédéral, le discours du trône qui a lieu mardi de cette semaine, à voir s'ils vont justement encourager encore une fois ces liens-là avec leur politique d'incitation à la fabrication d'éoliennes.
Mais il faut croire que M. Caillé et M. Hamad n'ont pas encore eu le temps de nous parler. Merci beaucoup, Patrick Bonnet, de nous avoir parlé de cette belle nouvelle. On est content quand même. Enfin, ils ont saisi la balle au bon et ils ont écouté les recommandations des citoyens et citoyennes québécoises dans le coin du Québec, de la ville, très belle ville de Québec. Les gens de Lévis ont dit non, mais on dit non à quoi, Nicolas Milo?
Bien, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de Kakuna, Lévis, les projets de port méthanier. Mais la semaine dernière, Gaz Métro, qui est le promoteur du projet de port méthanier à Lévis-Beaumont, un projet de 700 millions, mais a décidé d'annuler une séance d'information publique à la suite du dépôt d'un rapport d'un expert américain, M. James Fay, au sujet de la zone de sécurité qui devrait entourer le fameux port méthanier. Les promoteurs, eux, envisageaient une zone de sécurité de 400 mètres et lui voit plutôt des optiques de 4 à 6 kilomètres en termes de zone de sécurité. Il y a une grosse différence. Eh bien, ça, cette semaine, ce que ça a provoqué, c'est que en l'absence de M. Garon, le maire de Lévis, qui est absent momentanément pour des causes de santé, eh bien, le conseil municipal a voté un énoncé contre le projet du port méthanier. C'est une très bonne nouvelle. On vous rappelle qu'au Canada, il n'y a aucun port méthanier présentement. Il y a deux projets au Québec, un dans les maritimes. Donc, ça ferme la porte. Puis on sait que présentement, le secteur énergétique en plus grande croissance au Canada, c'est le gaz naturel. Et dans le fond, c'est un sujet très important présentement.
Un projet à Gros Kakuna, on s'en souvient, dans le golfe du Saint-Laurent.
Oui, c'est un des deux au Québec.
Maritime, OK. Oh, maritime, je pense que c'est dans l'Est.
Bon. Donc, c'était dans les bonnes nouvelles, quelques raisons d'espérer cette semaine. This is it. écoutez toujours Delirium environnemental. Je vous rappelle qu'on n'invente absolument rien. On lit les journaux pour s'informer, entre autres choses. Donc, vous pouvez trouver la plupart des nouvelles desquelles on vous parle sur notre site Internet. Encore une fois, merci à notre concepteur Étienne Côté-Paluc. L'adresse est le www.radiodelirium.net. On poursuit avec une polémique entre le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement au Canada. Moi, j'ai toujours été pour qu'on fusionne ces deux ministères-là, mais bon. Messieurs Milo et Bonin, vous avez des informations au sujet de cette polémique.
Je vous en fais une petite vite, moi, rapide. On sait que le prix du baril du pétrole a virevolté autour des 50 $ la semaine passée et on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Que la Californie est arrivée avec des nouveaux standards plus sévères en termes d'émissions des autos, également des SUV, des camions, et même que la Chine a sorti une nouvelle règle, des nouveaux standards d'émissions. Eh bien, on a au Canada M. Dion, qui est le ministre de l'Environnement, qui pousse pour que ce standard-là passe au Canada, donc qu'on se raccorde aux mêmes standards que la Californie. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y avait un sérieux malaise au sein du cabinet des ministres fédéraux parce que M. Efford, qui lui est le ministre, John Efford, ministre des Ressources naturelles au Canada, eh bien lui, il voit ça tout autrement. Il ne veut pas qu'on se raccorde à la Californie, donc on impose des lois. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des lois volontaires, donc que les compagnies d'automobiles fassent de façon volontaire des nouvelles normes d'émission plus sévères.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui dérange à lui?
Eh bien, je pense qu'il couche avec ces gens-là.
Oui, parce qu'à ma connaissance, on n'est pas des grands producteurs de voitures ici au Canada, alors je vois pas du tout pourquoi est-ce que c'est à son avantage.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que M. Efford vient des prairies et est très connecté à la réalité albertaine.
Donc,
et
au
lui, il y a un lobby très, très puissant qui lui pousse dessus, justement pour que, wow, l'industrie automobile, on a encore besoin de vendre l'essence au Canada, et ça pousse très fort.
Et ce qui est inquiétant, c'est que, justement, c'est le ministère des Ressources naturelles qui est responsable de la plupart des politiques touchant, justement, à l'énergie, dont les réglementations sur l'économie d'essence et les émissions de véhicules. Donc, on a un gros combat qui s'annonce, entre autres avec Kyoto, qui risque de devenir une vraie loi, parce que si ça devient, si ça prend forme, ce protocole-là dont on entend parler, ça va être une loi, et ça va brasser dans la cabane.
Surtout pendant un gouvernement minoritaire, où est-ce que le Bloc puis le NPD vont vraiment pouvoir pousser comparativement aux autres années.
Mais ça ressemble quand même à un combat David contre Goliath, l'environnement contre les ressources naturelles.
Il est pas gros, Stéphane Dion.
Non, il est pas gros. Par contre, il a su prendre la parole à des moments opportuns ces dernières semaines depuis son entrée en poste, en fait.
Et Jack Layton, qui est sorti avec un plan d'action pour le Canada la semaine passée pour le protocole de Kyoto, il a dit « Monsieur Martin, adhérer à ce plan. » Je sais pas ce qui va arriver, mais wow, quel beau travail.
Mais oui, Sofiane, tu mentionnais Stéphane Dion. Je glisse avec ma nouvelle sur Belle Dune. Vous connaissez l'incinérateur de sol contaminé provenant des États-Unis qui est en train de se finir d'être construit à Belle Dune, au Nouveau-Brunswick.
Quelle honte.
Eh bien, il y a eu tellement de pression par les groupes environnementaux au Nouveau-Brunswick que finalement, on a réussi à avoir une motion par Stéphane Dion, ministre de l'Environnement fédéral, qui s'en va en appel sur la décision de la Cour fédérale. Je veux juste vous faire un petit historique de l'histoire de Belle Dune très rapidement. La construction de cet incinérateur-là avait été accordée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le fédéral. L'accord de construction a été fait sans évaluation d'impact au point de vue gouvernemental. Donc, l'évaluation d'impact a été faite par la compagnie, mais pas par le gouvernement. Évidemment, beaucoup de pression par le public en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens. On est la 7e ville la plus polluée au Canada. On a déjà des gros problèmes. Si on rajoute un incinérateur en plus, ça n'a pas de bon sens. Donc, les pressions du public font en sorte que le 21 mai dernier, il y a David Anderson qui dit, OK, on s'en va en Cour fédérale et on dit on va mettre un moratoire là-dessus et on veut faire une évaluation d'impact. Réaction de Bennett Environmental, la compagnie qui fait cet incinérateur, on conteste en cour fédérale parce que la construction est déjà entamée. Donc vu que la construction est déjà entamée, on n'a plus le droit d'appliquer cette loi pour la protection de l'environnement au Canada parce que normalement la loi de protection s'applique à des projets seulement et non pas des constructions déjà en cours. Qu'est-ce qui arrive? Monsieur Dion arrive dans le décor en disant non, malgré la décision de la Cour fédéral, on s'en va en appel, on rejette cette décision-là et on veut faire une étude d'impact. Donc, une excellente nouvelle pour la cause de Belle Dune.
Excellente nouvelle et ça va peut-être permettre justement de discréditer les poursuites en justice que Bennett peut-être. Environnement tentait de faire contre le Conseil de la conservation de la nature du Nouveau-Brunswick pour diffamation parce qu'il avait dit qu'il allait émettre des produits toxiques dans l'environnement.
Ouais. Incroyable. Dossier de fou. Donc, intéressant.
Si vous voulez davantage de nouvelles, gênez-vous pas. Allez voir le site de la coalition Retour à l'expéditeur. Justement, ça va être sur notre site internet. internet www.radiodelirium.net. Vous écoutez Délirium environnemental.
Toujours intéressant vraiment ce dossier-là, c'est à s'arracher les cheveux, à s'en arracher les cheveux. Merci beaucoup Nicolas Mainville de nous en avoir parlé ici au Québec. Monsieur Mulcair a mis de l'avant la semaine passée, en fait, vers le 28 ou 30, il a mis en place ce qu'on appelle le projet de loi 44, donc qui concrétise la notion de pollueur-payeur. Ça fait pas l'affaire de tous, mais on est quand même contents.
Ben c'est le fun de voir des ministres de l'environnement qui font autant de choses dans une semaine. C'est rare. On va en profiter pendant que ça passe.
Non, d'habitude, ils en font, mais pas des bonnes.
Mais c'est ça. Donc, on va remettre un peu dans le contexte. Donc, la semaine dernière, comme tu nous disais, M. Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement du Québec, mettait sur la table un projet de loi. Dans le fond, c'est un projet de loi qui vise à modifier la loi sur la qualité de l'environnement et la loi sur le ministère de l'Environnement du Québec. Et, en gros, deux volets principaux à ce projet de loi-là. Premièrement, obliger toute entreprise qui fait partie d'un ou plusieurs secteurs de l'industrie à faire rapport de leurs rejets. Présentement, ce n'est pas obligatoire et surtout que s'il y a des données incomplètes, il n'y a pas vraiment de moyen pour le ministère d'aller chercher les données qui manquent pour faire le point.
En fait, c'est obligatoire seulement au niveau fédéral.
C'est ça, mais non au niveau provincial. La deuxième partie, ben, c'est de permettre l'imposition aux entreprises qui récidivent. Donc, ça fait plusieurs fois qu'ils sont prises avec des problèmes de pollution où le ministère doit intervenir. Donc, de faire payer à ces entreprises-là les frais d'inspection et de contrôle que le ministère doit faire suite à cette attitude-là. Donc, bref, c'est d'appliquer le principe du pollueur-payeur.
On pense entre autres qui vont pouvoir aller chercher entre 5 à 10 millions par année. Les critiques disent que, justement, c'est une taxe déguisée.
Bien, ça fait partie des critiques. Peut-être juste pour finir, une dernière notion du principe qui est intéressante, et ça, je suis content de voir M. Mulcair le faire, c'est qu'il dit que l'argent qui serait pris de cette façon-là serait versé dans un fonds dédié dans le futur plan vert qui devrait être déposé cet automne. M. Mulcair nous a dit ça cette semaine. Mais ça, on l'attend toujours, et on l'attendra peut-être longtemps. Donc, ce qui arrive, c'est que par contre, comme tu le dis, Sofiane, il y a beaucoup de personnes qui voient là-dedans des choses et dans le fond, qui sont à éclaircir. Premièrement, il y a le barreau du Québec sous un angle très, très légal, dit, ben, ça a vraiment l'air d'une taxe déguisée, ce que vous faites, M. Mulcair. Donc, il y a des choses à préciser qui ne sont pas encore faites dans le projet de loi. Une des oppositions les plus intéressantes, c'est celle du Conseil du patronat du Québec, qui, lui, nous dit que, dans le fond, ça empêche l'industrie à se réfugier derrière la loi de la protection contre de l'information, dans le fond, pour cacher certains renseignements, que ça va désavantager l'industrie en termes de compétitivité, parce qu'ils vont être, dans le fond, ils vont devoir être tellement transparents que ça va les désavantager économiquement. Et une petite chose qui est intéressante, c'est de le commentaire de Stephen Guibault de Greenpeace Québec, qui dit, lui, dans le fond, que c'est peut-être offrir à l'industrie un moyen de contourner, un moyen de déguiser leurs choses sous le couvert de la transparence. Donc, faire attention. M. Mulcair aura beaucoup de choses à préciser avant que ce projet-là soit accepté par tout le monde.
Si vous voulez des informations, juste un petit point, l'INRP, Institut national de rejet de polluants au niveau fédéral, c'est eux qui reçoivent toutes les informations de toutes les compagnies au Canada. Allez voir ça, INRP.
Je t'en vas, Gino? As-tu fermé tes lumières?
Oui, oui, j'ai fermé les fenêtres aussi au cas où vous allumez le chauffage. J'ai même fermé les rideaux parce que ça aide à conserver un peu plus de chaleur dans la maison durant la nuit.
Et t'as sorti le recyclage, c'est demain?
Oui, oui, j'ai fait ça aussi. Ok, ciao là, je dois y aller.
Mais t'as...
J'ai trié le verre, les plastiques, les papiers, puis j'ai tout mis ça dans ma petite boîte verte en m'assurant que ça part pas au vent et que ça soit facile à identifier pour les recycleurs. Contente?
Ah, c'est bien, mais t'as fermé les robinets aussi?
Maman, bien sûr.
Est-ce que t'as laissé des appareils sous tension?
Ben, Gino,
tu sais qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'en termes d'efficacité énergétique au niveau d'une ville, ça peut avoir un effet non négligeable. Moi et ton père, on essaie tant de réduire notre consommation d'énergie.
On en a déjà parlé, là. Je vous aide à calfeutrer les fenêtres en fin de semaine. Bon, je t'en retarde, je t'embrasse.
Gino...
Hey, oui, vous écoutez toujours Delirium environnemental. Donc, on poursuit sur la revue de l'actualité, la revue de presse cette semaine. Décidément, l'approche légale juridique en environnement semble être de retour. Les Inuits, je m'excuse, menacent Québec et Kruger d'une injonction. Mais pourtant, Kruger, ils n'ont pas gagné un phénix de l'environnement, eux autres.
Ah ben ça, on peut faire plusieurs choses. Tout est possible.
Avec le mot développement durable dans nos rapports.
Ça passe tout le temps bien. Oui, donc, c'est le dossier de l'île René Levasseur. On n'en a pas beaucoup parlé à l'émission, mais c'est un très gros dossier. Vous avez probablement vu les actions de la coalition SOS Levasseur qui font du très beau travail en passant. Ces pressions-là sont dues au fait que Kruger, la compagnie forestière, est en train d'exploiter déjà sur l'île René Levasseur, qui est, vous savez, cette immense île qui est en fait 5 fois la taille de l'île de Montréal sur le bassin Manicouagan, dans la côte nord. réservoir qui a été créé en 1960 lorsqu'on a construit le réservoir Manicouagan. Donc, une île immense qui est à 23% protégée, mais avec une forêt très ancienne qui a été protégée d'ailleurs par les contre les feux de forêt depuis l'inondation, et puis qui est un territoire de trappe et de chasse depuis longtemps par les Innus.
C'est pas l'île exactement parfaitement ronde qu'on voit sur la carte du Québec,
le gros
très loin, le gros beigne.
Exactement, ça c'est le trou du beigne.
C'est pas un météorite qui est tombé là?
C'est un météorite qui est tombé là il y a maintenant, 215 millions d'années.
Merci, quelle information.
Puis,
c'est bon, comme
ça. Cette île est extrêmement précieuse, point de vue biodiversité et point de vue territoire de trappe pour les Innus. Donc, évidemment, lorsqu'il y a eu accord d'accorder ce CAF, le contrat d'aménagement et d'approvisionnement forestier,
25 ans.
À la compagnie Kruger, eh bien, les Innus n'ont pas donné leur accord. Et puis, maintenant que l'exploitation a commencé, ils ont déjà sorti 20 000 mètres cubes de bois l'année passée. En 2003, eh bien, il y a encore des pressions des Innus, et c'est exactement ce que la nouvelle est aujourd'hui, c'est-à-dire que les Innus menacent de faire une injonction contre la compagnie Kruger et Québec pour qu'ils arrêtent de faire cette exploitation-là. Donc, un gros dossier parce que, évidemment, ça représente le poids de la présence autochtone et de leur poids politique qu'ils peuvent avoir sur l'exploitation forestière.
Je ne m'y connais pas plus que ça, mais c'est grâce à la paix des Braves, entre autres, qu'ils peuvent faire ce genre de... Oh, non, je m'excuse, je ne veux pas aller vers là, mais justement, qu'ils peuvent... se réapproprier le territoire et dire, ben là, un instant, on aurait dû être consulté pour ce type de développement-là.
Exactement. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a toujours dialogue officiellement et des dialogues entre le gouvernement, les compagnies et les Autochtones. Ce qui est décrié par la compagnie en ce moment, c'est qu'ils se disent surpris de la réaction des Autochtones, d'autant plus qu'ils disent que les actions de la compagnie se déroulent dans le respect des lois applicables, particulièrement ce qui a trait à l'environnement. Donc, cette compagnie-là est en train de lessiver la forêt sur l'île René-Levasseur, mais elle respecte évidemment les lois de l'environnement. Bon, je pense qu'on va suivre ce dossier-là. C'est un début. Oui, vas-y, Patrick.
Juste rappeler quelque chose d'important, que la commission Coulombe devrait accoucher d'un rapport sous peu. La commission Coulombe qui faisait justement l'enquête sur la gestion de la forêt, c'est pas une enquête, en fait, c'est une étude sur la gestion de la forêt au Québec. Et il y a des déroulements, ils sont présentement en train de la rédiger. On est censé savoir sous peu si on exploite davantage que la forêt est capable de se régénérer. Et allez voir le site, je crois que SOS René Levasseur ont un site internet. Allez voir ça sur notre site internet www.radiodelirium.net. Excusez-moi de dire toujours W, de faire de la pub pour Bush.
Quelle drôle d'idée. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Puis c'est vrai que les gens de la SOS René Levasseur font un travail
sont impressionnants.
Fabuleux. Et vous trouverez tout ça sur notre site internet. À Frélichburg, cette belle région des cantons de l'Est, la population dit non. Milo, c'est toi qui nous en parles.
Mais oui, dans le fond, c'est une histoire. On va se remettre en 1988. Mais oui, Milo, c'est mon nom de famille.
Je m'excuse parce qu'il y a deux Nicolas. Je m'excuse, il y a deux Nicolas en studio, donc.
Donc, je vous remets dans le contexte. En 1988, une compagnie, Sibeca, qui veut faire un développement domiciliaire, mais axé sous une vocation récréotouristique. Donc, il y a le mont Pinacle dans la municipalité de Frélichburg en Estrie. Donc, ils veulent faire sur le terrain du mont Pinacle un projet de ski alpin, terrain de golf et des résidences. Il y a des gens qui s'opposent à ça, mais le projet est en parfait accord avec le schéma d'aménagement de la MRC dans le temps. Donc, ce qui arrive, c'est que les oppositions se font. Bref, il n'y a rien qui avance. Le projet retarde et à l'automne 93, le projet n'est pas encore mis en branle, mais les opposants réussissent à se faire élire au conseil de ville.
Yes.
Et l'année suivante, modifie le zonage et le projet ne peut plus se faire. Donc là, la compagnie abandonne, vend ses terrains, perd l'argent, mais décide de poursuivre la ville. Et là, dans le fond, il y a un procès qui s'est enchaîné, qui a duré 10 ans et le résultat est sorti la semaine dernière. En le fond, à savoir, est-ce qu'une ville peut être tenue responsable d'un échec commercial comme celui-là?
Non.
Et ben, ce qui est intéressant, c'est que Madame la juge Marie Deschamps qui cite, en vertu du droit public, une municipalité ne peut donc être retenue responsable de l'exercice de son pouvoir réglementaire si elle agit de bonne foi ou si l'exercice de ce pouvoir ne peut être qualifié d'irrationnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de dire dans le jugement que l'environnement est rationnel dans l'établissement des règlements de zonage et tout. Mais ce qui arrive, c'est que là, ça donne le pouvoir à ce qui se passe au Morfern, ce qui se passe un peu partout, d'aller de l'avant et les municipalités vont pouvoir bloquer des projets sans avoir peur de se faire poursuivre par les compagnies par après.
Quelle belle nouvelle!
Très intéressant.
On est contents, bravo!
Les années 90 sont la police, un trop-plein de crème solaire, de pchit à la citronnelle et de produits chimiques. Mais sous cette soyeuse enveloppe se cachent des organes dégueulasses, pourris par les vues à court terme, l'obsession de l'argent et le cynisme. Je ne suis qu'un mot. 90 rit de cette impuissance de leurs enfants à rendre la peau moins lisse. Ils prennent des airs nostalgiques et se remémorent le bon temps, exempt de pchit à la citronnelle et autres produits chimiques. Je ne suis qu'un moustique si je pique en mesquinte du revers de la main où on me met sous plastique ou on m'intoxique. Je ne suis qu'un moustique si je pique en mesquinte du revers de la main où on me met sous plastique ou on m'intoxique. La police. On reproche aux jeunes moustiques de ne plus rien avoir à piquer. Cette peau reste si désespérément lisse. Pourtant n'est pas déjà venu le temps de se croiser les ailes, même si nous ne sommes que des moustiques. Nous ne sommes que des moustiques. Si on pique, on nous esquinte du revers de la main. Que nos piqûres, bien que d'apparence ridicule, peuvent permettre à un virus fou de s'introduire sous l'épiderme et de se frayer un chemin jusqu'aux organes les plus puants. Ainsi ce grand corps, si préoccupé de son apparence, ne verra pas venir cette révolution souterraine. Il ne pourra inventer ni produits chimiques, ni pchipchit. L'intrusion, l'installation et la prolifération afin de nettoyer ce grand corps bronzé de l'intérieur. Je ne peux nier que les années 2000 risquent d'avoir la police. Mais par contre, je peux jurer que sous cet épiderme, pasteurisé et sans âme, tout sera...